se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Vous écoutez
RMC.
Vendredi 5 août,
l'info sur RMC.
Il est 7h, le réveil sonne, soyez les bienvenus sur RMC. Tout de suite, votre journal avec Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. 78 centimes le litre de lait, ce n'est pas assez. Les producteurs en colère, à ce prix, ils ne peuvent plus payer. L'armée ukrainienne met-elle en danger les civils? Amnesty International alerte, qui évacue l'ONG de désinformation. Le foot, reprise de la Ligue 1 ce soir, Lyon-Ajaccio. RMC vous dévoile le plan de la Ligue de football pour faire revenir le calme dans les stades.
Le prix de la brique de lait est trop bas dans nos supermarchés. Ce sont les producteurs qui alertent.
Êtes-vous prêt à payer plus cher votre litre de lait? C'est en tout cas ce que ces éleveurs réclament. Une hausse des prix. En France, le litre coûte 78 centimes. Chez nos voisins belges, par exemple, c'est 30 centimes de plus. Compliqué dans ces conditions de gagner un salaire décent dans la Sarthe. La mobilisation s'organise. Mathieu Limongi.
Dans cette exploitation qu'il gère depuis 35 ans, Pascal produit 1 million de litres de lait chaque année. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, il s'inquiète pour ses finances.
Situation qui, aujourd'hui, ne nous permet pas de faire face. J'ai beaucoup d'investissements, j'ai des comptes à rendre à mon banquier. J'ai pas le choix, il faut que ma trésorerie soit équilibrée. Et elle se dégrade à une vitesse folle.
Pour chaque litre de lait, Pascal touche 42 centimes. Mais le prix des matières premières et ses coûts de production ont explosé. La marge qu'il récupère est donc très faible, seulement 4 centimes.
Quand j'arrive pas à équilibrer ma trésorerie, qu'est-ce que je fais? Je vends des vaches. Mais c'est les vaches qui me font le lait. Donc je vais faire à terme de moins en moins de lait.
Alors les syndicats demandent que la loi Egalim soit renforcée, une loi censée permettre une plus juste rémunération des producteurs. Mais aujourd'hui, elle serait mal appliquée selon Guilain Deviron. Il est président de la section laitière de la FDSEA du département.
Il n'y a plus personne qui respecte la loi Egalim, aussi bien les transformateurs que les distributeurs. Comme avant la loi, le distributeur prend sa marge, le transformateur prend sa marge et puis on donne ce qui reste aux producteurs.
Syndicats et éleveurs alertent pour que la filière française du lait puisse survivre. Les consommateurs devront payer plus cher leur brique de lait.
Le prix du lait en question, on en parlera tout à l'heure à 7h40 avec mon invité. C'est l'un des dirigeants du groupe Lidl France, Michel Biérot, vient répondre avec nous en studio 7h40.
Les prix, on continue d'en parler. Ça baisse à la pompe. En moyenne, le litre de sans-plomb 95 est à 1,84€, donc en dessous de la barre des 2€. Les Aoussiens ont eu plus de chance que les Juilletistes. Attention d'ailleurs, trafic très chargé demain dans le sens des départs et des retours. Les parlementaires d'ailleurs partent en vacances. Ils ont terminé le boulot. Et quel boulot ? Assemblée nationale et Sénat ont voté les dernières mesures pour le pouvoir d'achat hier. 65 milliards d'euros en tout pour faire face à l'inflation. Retour en octobre pour d'autres sujets brûlants comme la réforme de l'assurance chômage, celle des retraites ou encore la loi sur l'immigration. Rentrée brûlante et déjà été très brûlant. Côté température, 9 départements en vigilance canicule dans le sud-est, 5 en vigilance orage autour du massif central. Dans la Haute-Corse, c'est la sécheresse qui inquiète énormément. Ce chiffre très angoissant. Dans 25 jours, il pourrait ne plus y avoir d'eau. La stratégie, limiter la consommation et dessaler de l'eau de mer. Kevin Gazer, dans le village de Rogliano, l'usine est prête.
Oui, ce village au nord du Cap Corse et quelques communes voisines bénéficieront bientôt de cette toute nouvelle infrastructure pour remplir leurs réserves d'eau douce grâce à l'eau de mer, une première en Corse.
Un combat que je mène depuis le mois de janvier.
Patrice Quilici est le maire de cette commune de 600 habitants.
Les travaux de génie, de branchement d'eau sont réalisés. Les conteneurs vont commencer à arriver à partir du 20 août. Il y a un puisard qui pompe l'eau, qui passe par plusieurs conteneurs dans un conteneur où il y a les systèmes de filtration. Et elle sort potable.
L'usine devrait être opérationnelle le 15 septembre. Objectif dessaler 500 mètres cubes d'eau par jour pour alimenter le réservoir communal, où il ne reste que 15 000 mètres cubes, soit 2 à 3 semaines de consommation d'eau.
On va arriver à faire la jonction entre la mise en place, la production de l'unité de dessalement et le stockage. On va peut-être s'en sortir, mais on est dans le rouge.
Un investissement d'1 million d'euros, dont 70% sont pris en charge par l'État et la collectivité.
En Haute-Corse, Kevin Gasser pour RMC.
L'actualité internationale à 7h05 sur RMC et ses lourdes accusations qui pèsent sur l'armée ukrainienne.
Amnesty International affirme que des civils ont été mis en danger volontairement pendant la guerre. Florian Chevalet, que révèle précisément le rapport de l'ONG ?
Les chercheurs d'Amnesty International ont trouvé des preuves de frappes ukrainiennes lancées depuis des zones résidentielles, peuplées, des bases militaires installées également dans des écoles et des hôpitaux, dans des villes et villages à l'est de l'Ukraine. Jean-Claude Samouillet est président de l'ONG en France.
L'armée ukrainienne aurait pu se mettre ailleurs, c'est-à-dire à la campagne, en dehors des villes, en dehors des villages, dans des zones boisées ou dans des sites militaires ukrainiens désaffectés pour lancer ces attaques. Et ainsi protéger sa population.
L'Ukraine, de son côté, se dit indignée par ces accusations et reproche à Amnesty International de mettre sur le même plan un pays qui détruit des villes et des milliers de civils et un autre qui tente désespérément de se défendre et de sauver son peuple, ce que réfute l'ONG.
On ne met pas les deux armées sur le même plan d'égalité. Il y a des atrocités sans nom et sans nombre qui sont commises par les forces russes, mais là, en l'occurrence, les forces ukrainiennes ont violé le droit international humanitaire et nous, c'est notre devoir de le faire savoir.
Selon lui, l'armée ukrainienne aurait au moins pu évacuer les civils des zones résidentielles où se trouvaient les soldats.
Des tensions géopolitiques fortes en ce moment et cette basketteuse américaine, on a été victime. Tensions entre la Russie et les États-Unis. La star américaine du basket, Brittney Griner, a été condamnée à 9 ans de prison en Russie pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée en février à Moscou avec une vapoteuse au cannabis. Une peine inacceptable pour le président américain. La Maison-Blanche propose au Kremlin un échange de prisonniers.
Le foot, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir.
Lyon affronte Ajaccio pour cette première journée, coup d'envoi à 21h. C'est un match évidemment à suivre sur RMC. Un objectif pour cette saison, des stades apaisés. RMC vous dévoile ce matin le plan d'attaque de la Ligue de football. Nicolas Pelletier, les derniers mois avaient été marqués par des violences dans les tribunes.
Il y a un an, lors d'un Montpellier-Marseille, Valentin Rongier était touché en plein visage par une bouteille. Cette saison, le club héraultais a décidé de prendre les devants en installant des filets derrière les buts. Pierre-Marie Grappin, responsable de la sécurité du club.
C'est un filet qui est à petite maille, qui est notamment destiné à empêcher le jet des briquets, parce que nous avons une quantité invraisemblable à chaque match.
Les briquets pourront encore entrer dans les stades cette saison. Les bouteilles d'eau, elles seront en revanche interdites. Autre nouveauté, un policier référent chargé de faire le lien entre les autorités et les fans. Kylian Valentin, porte-parole de l'Association nationale des supporters, le répète, une meilleure formation des stadiers reste la priorité.
La solution la plus simple et la moins restrictive, c'est de mettre en place des stadiers. Sauf qu'on sait que les clubs sont confrontés à une pénurie de stadiers depuis la fin Covid. Là, en passant directement, comme on l'a vu la photo à Angers ou à Ajaccio directement par le système de cage, c'est-à-dire qu'on passe tout de suite au tout restrictif.
D'autres mesures pourraient être prises en cours de saison. Un rapport sur les violences dans les stades commandé par la Ligue au criminologue Alain Bauer sera rendu du fin septembre.
Ce soir, 21h, Lyon-Ajaccio. Demain, Clermont-PSG.
Marguerite Dumont pour le journal de 7h sur RMC. Il est 7h08 et on parle de notre pouvoir d'achat ce matin avec cette mesure sur les RTT. Vous allez pouvoir jusqu'en 2025 revendre entre guillemets vos RTT à votre employeur, les échanger vos jours de congé contre du salaire et contre de l'argent sonnant et trébuchant. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Je vous attends au 32-16 et Christelle est avec nous. Bonjour Christelle. Est-ce que Christelle est avec nous? Bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RMC. Vous nous appelez de la Manche, c'est ça?
Oui, de la Manche, effectivement. Je suis dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Écoutez, je travaille pour la plus grosse entreprise de France, Pôle emploi.
D'accord, vous êtes en recherche d'emploi. Quelle profession?
Non, je ne recherche pas, je travaille pour Pôle emploi.
Ah, vous travaillez pour Pôle emploi? Pardon, je pensais que c'était ironique. Vous avez des RTT, Christelle?
Oui, j'en ai 15.
Vous en avez 15, d'accord, donc c'est plutôt pas mal. Vous seriez prête pour gagner un peu plus à les échanger, à échanger quelques jours contre un peu de salaire en plus?
Absolument pas.
Pourquoi?
Absolument pas, parce que j'estime que c'est des acquis que nous avons et que forcément, si on commence à se faire payer les RTT et on laisse le gouvernement et nos employeurs faire cela, on est livré à nous-mêmes et ça va être la grande comment dirais-je, débandade.
Vous tenez à ces jours de repos, c'est aussi un rythme de travail, vous voulez garder ce temps pour vous?
Ah oui, oui, je veux garder ce temps pour moi parce que moi, je m'en sers pour poser les congés, soit le mercredi pour être avec ma fille ou pour les sorties scolaires ou pour faire des choses en famille. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la mentalité des salariés, c'est plus du tout ça. Si on voit plus pour son boulot, on en fait plus pour son boulot que pour sa vie privée et sa vie familiale.
Donc, mais vous comprenez ceux qui se disent, si, travailler un peu plus pour gagner plus, pourquoi pas ?
Oui, non, mais à ce moment-là, on n'a qu'à revenir aux 40 heures aussi.
Bah, de toute façon, c'est un peu abolir, ça. Abolir c'est déjà les 30... la fin non, un mais... peu des 35 heures. Ouais.
La finalité, c'est ça. Si on abolit les 35 heures ou les 37h30 comme moi, et à ce moment-là, on bosse de nouveau 40 heures comme nos grands-parents et arrière-grands-parents, et puis on n'a plus aucun avantage. À un moment donné, on s'est battu pour avoir des acquis sociaux. Si on commence à se laisser faire et à se laisser manger, il y aura plus rien. Enfin, quand on voit la mentalité des gens au jour d'aujourd'hui, moi, je ne me retrouve pas dans les valeurs de la société actuelle.
Après, ça peut être au choix de chacun, peut-être aussi. Chacun peut aussi choisir combien de temps il veut travailler. Ça permet la liberté, ce dispositif, malgré tout.
Oui, après. Oui, ça peut être au choix de chacun, mais justement, comment seront perçues les personnes au niveau du patronat, les personnes qui veulent moins travailler et profiter de leur vie familiale, quitte à être moins payées, et ça va revenir au même. Hein. Moi, je mettais dans le message de contestation, moi, ça fait 11 ans que je bosse, ou ça fait 11 ans que je ne suis pas augmentée. Hein. Si je retire ma prime d'ancienneté, je suis en deçà du SMIC.
Ah oui.
Oui, c'est ça la question. Vous préférez une augmentation
du
salaire.
Du salaire et vous posez bien le débat aussi, Christelle, de votre côté. Merci beaucoup pour votre appel au 32-16. Le débat continue. On en reparlera tout à l'heure avec un économiste qui sera là avec nous. Quels sont les effets de cette mesure? Si vous êtes chef d'entreprise aussi, je vous attends au 32-16. Est-ce que vous trouvez ce dispositif positif? 7h12 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin, le témoin du jour, c'est Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Il veut instaurer une caution de 15 000 euros pour dissuader les alpinistes imprudents qui veulent gravir le Mont-Blanc.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h13 sur RMC, soyez les bienvenus.
Le témoin du jour.
Le témoin du jour ce matin, c'est vous, Jean-Marc Payex. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Vous êtes le maire de Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Vous êtes au pied du Mont-Blanc et vous alertez très souvent sur les dangers de la montagne et sur les imprudences. Hier, deux alpinistes français ont été retrouvés morts dans le massif des Écrins, dans un autre secteur, dans les Hautes-Alpes. Une cordée d'alpinistes amateurs qui ont fait une chute dans une crevasse. On est dans une période de danger maximal en ce moment en montagne.
Effectivement, on est dans une période où la montagne elle gronde un peu et la difficulté c'est que quelques alpinistes se considèrent dans un jeu virtuel et considèrent qu'effectivement la montagne est à notre disposition et figée de la même manière pendant toute l'année. Or c'est complètement faux. La montagne est un être vivant et on ne peut pas programmer d'aller faire l'ascension du Mont Blanc par la voie du Goûter de Saint-Gervais toute l'année dans toutes les conditions. Donc on peut pas se dire je vais faire le 5 août le Mont Blanc parce que ça se pratique pas comme ça l'alpinisme.
Et vous êtes dans une situation assez inédite cette année hein, puisque les guides n'empruntent plus cette voie du goûter que vous venez de citer, trop dangereuse. Ce sont des pierres là qui chutent en ce moment.
Alors ce sont des pierres qui chutent. Alors le dôme du goûter est un dôme de glace, mais l'aiguille du goûter est une aiguille qui est composée en fait c'est un amas de rochers et de pierres. Et la fonte du permafrost, c'est-à-dire la chaleur qu'accumule la montagne en ce moment, eh bien fait que des pierres, des rochers, de la taille d'une voiture, hein, dévalent cette pente de 3800 mètres à 3200 mètres. Et s'il n'y avait personne en dessous, il n'y aurait pas de problème, si vous voulez. C'est la montagne qui vit et il y a eu d'autres événements géologiques.
Et donc là, les guides n'y vont plus, mais certains s'y aventurent quand même, des alpinistes qui partent tout seuls.
Voilà, d'un côté, il y a la sagesse, c'est-à-dire que quand, avec le préfet, on a décidé mi-juillet de recommander aux alpinistes de faire le Mont Blanc une autre fois, c'est bien de faire le Mont Blanc, mais c'est pas la chose vitale du jour. Donc, les compagnies des guides ont décidé, celles de Saint-Gervais, celles de Chamonix, de ne plus emmener leurs clients et d'annuler leur course au Mont Blanc. Malheureusement, il y a des alpinistes, et principalement des alpinistes qui viennent d'Europe de l'Est, des Albanais, des Roumains, des Slovaques, qui eux arrivent avec le sac à dos, généralement pour certains avec un short, avec des baskets, et s'en fichent pas mal de savoir ce que dit le préfet de la Haute-Savoie et ce que dit le maire de Saint-Gervais. Et ils montent allègrement, en bouffonnant, les gendarmes de haute montagne qui sont sur le parcours et les membres de la Brigade Blanche qui leur disent « on vous recommande de pas y aller ». Mais comme c'est pas interdit, parce qu'on peut pas interdire la montagne, eh bien ils font un pied de nez puis ils continuent.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire si les messages d'alerte ne suffisent pas ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai décidé, mais c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre, le suicide n'est pas interdit en France. Eh bien, vous voulez vous suicider ? Bah, écoutez, donnez-nous une caution, comme ça au moins ça nous paiera les frais pour aller chercher votre cadavre et les frais pour aller vous sépulturer. Donc c'est 10 000 le secours en France, 10 000 la moyenne du coût d'un secours, et 5 000 c'est la moyenne d'une sépulture à peu près décente avec cercueil.
Vous avez fait cette proposition hier qui est volontairement provocatrice, hein. On va être clair, vous dites qu'il faudrait demander une caution de 15 000 euros, entre guillemets, pour payer les frais de secours et les frais d'obsèques. C'est une façon de marquer les esprits, c'est pour ça que vous dites ça comme ça ?
C'est une façon de marquer les esprits, mais c'est aussi un débat de fond. Est-ce que celui qui respecte les règles doit être récompensé de la même manière que celui qui les bouffonne ? C'est ça, c'est un vrai débat à la française qu'il faut qu'on mène. Aujourd'hui, quand vous respectez les règles, vous avez la même récompense que si vous ne les respectez pas. On vient vous chercher avec l'hélicoptère, il n'y a pas de souci que vous ayez fait prendre des risques ou non, que vous ayez respecté ou non. C'est ça qu'il faut changer. Donc c'est pour ça que je marque les esprits en disant voilà ce que ça coûte. Ça coûte 15 000, donc ce serait bien que les gens payent 15 000. Et pour la petite histoire, il y a une quinzaine de jours, il y a quand même deux Espagnols qui ont bravé l'interdit, enfin pas l'interdit, mais la recommandation, avec leur enfant de 10 ans. Et là, ça s'appelle un meurtre.
Voilà. Et donc, ça veut dire que selon vous, et ça fait longtemps que vous dites ça, Jean-Marc Payax, il faudrait pouvoir fermer la montagne ? Il faut aller jusque-là ?
Je crois que... faut arrêter cette couche d'orgueil que nous avons tous dans notre monde et dans notre pays, en particulier la France, de vouloir croire qu'on va changer les choses, que l'année prochaine il y aura plus de réchauffement climatique ou de changement climatique. Voilà, il y a des choses qui, la nature, elle change. C'est vrai qu'on fait pas grand chose et on n'a pas fait grand chose pour améliorer les choses, mais elle change. Donc, au lieu d'essayer de faire les coques à la française, eh bien, essayons d'adapter nos règles. Ça s'appelle de l'intelligence, hein, tout simplement. Et moi, je propose que certains itinéraires dangereux, on n'attende pas qu'ils soient dangereux pour ne plus les pratiquer, et que là, on les interdise. Et on pourra les interdire parce que ce sera pas lié à une notion de danger, mais à une notion de volonté. Et par exemple, d'interdire cette course par Saint-Gervais, par la Voie du Goûter, bah, par exemple, entre le 10 juillet et le 15 août ou le 20 août. Et il y a plein d'autres choses à faire dans la montagne. Les guides, ils sont là pour vous faire découvrir des choses magnifiques. Et il n'y a pas que le Mont Blanc.
Il y a effectivement plein d'autres balades magnifiques dans votre région de Haute-Savoie. Merci beaucoup Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais, les Bains en Haute-Savoie. On entend votre appel et recommandation à la prudence absolue en montagne en ce moment, et notamment dans ce massif du Mont Blanc. Merci à vous, il est 7h19 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans 20 minutes, pouvoir d'achat, sobriété énergétique, prix du lait. On en parle avec votre invité, Sébastien.
Avec Michel Biérot, qui est le patron des magasins Lidl. Il sera avec nous en studio. Mais avant cela, le reportage avec les artisans de nos régions. On ira découvrir aujourd'hui les producteurs de piment d'Espelette.
Et puis Cédric Dandeville va nous parler de la condamnation à 9 ans de prison de la basketteuse américaine Brittney Griner. Ce sera dans la Story Sport.
Restez avec nous sur RMC. Excellent réveil, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez sur RMC. Il est 7h23.
Les artisans de nos régions.
Jusqu'à la fin du mois d'août, on vous fait découvrir des métiers méconnus, des professions ancrées dans nos régions, des artisans. Et ce matin, on part au Pays Basque avec l'incontournable piment d'Espelette. On l'appelle parfois l'or rouge. C'est la seule épice qui dispose d'une appellation d'origine protégée en France. On en trouve dans les fromages, dans les charcuteries, dans toutes sortes de produits basques. Le piment d'Espelette, produit et cultivé là-bas depuis le 17e siècle. Écoutez ce reportage de Marie Sands à Espelette sur l'exploitation de l'atelier du piment.
Vous connaissez déjà un petit peu le piment d'Espelette ou pas trop? Oui. Nous, on sert tous les jours du piment, à la place du poivre.
À la place, voilà, c'est ce qu'on nous fait.
Pour tout savoir de cette épice, direction les parcelles de l'exploitation, 13 hectares de piment gorilla cultivé par Louis Pradi et son équipe. Tout commence en février.
On fait nous-mêmes nos plants de piment qu'on va élever environ un mois et demi, deux mois sous serre à partir de nos semences paysannes.
Les plants sont ensuite piqués à la main en mai. Le piment d'Espelette, une appellation d'origine protégée, pousse dans une zone bien délimitée.
C'est tout petit, c'est 400 hectares, plus petit que le champagne.
400 hectares sur 10 villages, dans une cuvette naturelle entre les montagnes. Ici, il pleut souvent et le climat chaud et humide plaît à cette plante d'Amérique centrale. Les premiers fruits seront ramassés dans 10 jours, 450 grammes de piment par pied en moyenne.
Il faut attendre qu'il soit complètement rouge et mûr pour être ramassé. C'est la même famille que les tomates, c'est les solanacées. Donc là, vous voyez, ça par exemple, c'est un des premiers piments qu'on pourra ramasser. Il n'y a pas besoin de sécateur pour le ramasser. Tout se fait uniquement à la main.
Les plus beaux fruits servent à faire des cordes de piment. Les autres sont réduits en poudre après plusieurs semaines de maturation, séchage et un passage dans le four.
Et au bout de deux jours et demi, on sort le piment qui est alors cassant, un peu comme une chips, et on va le broyer.
La poudre est ensuite goûtée par un jury. Elle se vend près de 90 euros le kilo.
Il faut avoir des arômes un peu de tomates mûres et de poivrons. Et après, une pointe d'amertume et le piquant qui vient progressivement. On tourne un peu le palais, mais qui ne brûle pas.
Le piquant, c'est à cause d'une molécule, la capsaïcine, comme l'explique Lison aux visiteurs.
Est-ce que tout le monde voit bien cette échelle?
Oui.
C'est l'échelle de Scoville. Donc quand on est au numéro 1, c'est doux, c'est neutre, comme le paprika doux. Plus on va monter au numéro 10, plus on va retrouver les piments les plus forts au monde, qu'on considère même d'explosifs. Notre piment d'Espelette, il se classe numéro 4, donc il n'est pas bien méchant. Vous allez voir en dégustation.
Une dégustation progressive de la gelée de piment sucré au caviar plus concentré.
Allez, bon courage, messieurs, dames.
Ouais.
Ouais. Vous faisiez les malins jusqu'ici, mais...
Bah là, ça pique vraiment, là. Enfin, pas vraiment, mais ça pique un petit peu.
Le remède, surtout pas d'eau, mais du riz, du lait ou du fromage. Et c'est bon à savoir, car ici, du piment, on en met partout, dans les plats, le chocolat et même les boissons.
Alors, vous vous rappelez comment on trinque? Au chachouna?
Voilà, le piment d'Espelette qu'on affiche aussi, qu'on suspend aussi au balcon sur les façades des maisons au Pays Basque. Il est 7h26 sur RMC.
La Story Sport.
La Story Sport avec Cédric Dandeville. Bonjour Cédric.
Bonjour à tous.
Et cette star du basket américain derrière les barreaux, l'américaine Brittney Griner, est condamnée à 9 ans de prison en Russie. Elle a été reconnue coupable hier de trafic de drogue.
Oui, c'est le visage baissé, c'est 2,06 m enfermé dans la cage des accusés que Brittney Griner écoute le verdict. Mi-février, la joueuse de 31 ans était arrêtée à l'aéroport de Moscou avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis, substance importée par erreur et utilisée seulement à des fins médicales, assure Griner, d'où l'incompréhension générale autour de la sanction russe. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
On l'explique pas, puisqu'elle risquait entre 5 et 10 ans, qu'elle a tout fait pour que ce soit réduit. En plaidant coupable, personne ne comprend. Elle avait le soutien de tout le monde quand même, y compris de son club russe, puisqu'elle était à l'intersaison aux États-Unis et elle en profitait pour faire quelques piges en Russie. Donc sa passion, c'était le basket.
Là, on est dans une affaire qui va bien au-delà du basket, Sébastien, puisqu'à l'heure de la guerre en Ukraine, la basketteuse des Phoenix Mercury est piégée par le contexte géopolitique. Pour Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie, la double championne olympique est devenue une monnaie d'échange.
Les Russes ont toujours la main lourde, y compris quand il s'agit de ressortissants étrangers, a fortiori américains. L'idée, c'est aussi d'avoir un moyen de pression vis-à-vis de Washington pour proposer un échange de prisonniers.
Et on sait que la semaine dernière, les négociations entre les deux puissances ont repris.
Tout à fait. Et d'ailleurs, les États-Unis estiment avoir fait une offre sérieuse, pas suffisant apparemment côté russe. En attendant des avancées, tout le basket américain reste mobilisé. Odyssey Sims, c'est une ancienne coéquipière de Griner.
Je ne sais pas quoi dire, c'est du jamais vu, incroyable, ça semble irréel, mais j'espère que Joe Biden et la Maison Blanche font tout leur possible pour la faire sortir.
Dans un communiqué, justement, le président américain demande la libération immédiate de Brittney Griner. Les avocats de la championne, eux, ont annoncé faire appel d'un verdict complètement insensé. Appel qui, vu le contexte, a peu de chances d'aboutir.
La Story Sport, signé Cédric Danteville. Merci. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30 sur RMC. 7h30 sur RMC et RMC Story, votre journal tout de suite avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Remise sur les carburants, revalorisation des retraites et des prestations sociales, monétisation des RTT. Le Parlement a adopté le projet de loi en faveur du pouvoir d'achat. Le pays, victime de la sécheresse, une situation historique pour Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui active ce matin la cellule interministérielle de crise. Et puis mission sauvetage pour... Dans les méandres de la Seine, un béluga y a été repéré.
Ça y est, cette fois, le projet de loi sur le pouvoir d'achat a été définitivement adopté par le Parlement hier.
Près de 65 milliards d'euros d'aide pour enrayer les effets de l'inflation. Parmi les principales mesures, la revalorisation des minima sociaux, la poursuite de la ristourne de 30 centimes par litre de carburant, ou encore le rachat des réductions du temps de travail, les RTT, par votre employeur, et cela jusqu'en 2025. Alors, qu'en pensez-vous ? Eh bien, Alexandra Sirgan est allée vous poser la question.
Échanger des RTT contre de l'argent, une mesure plutôt bienvenue pour certains salariés.
Si ça peut mettre un petit peu plus de beurre dans les épinards, moi je trouve ça bien.
Mais à condition de bien avoir le choix.
Si on s'en sort pas, effectivement, qu'on se les fasse racheter, pourquoi pas, mais qu'on puisse pas non plus dire à l'employé « Non, tes RTT, je te les donnerai pas, je vais te les payer, mais tu travailleras, quoi. »
Selon la loi, le rachat des RTT se fera à la demande du salarié, avec l'accord de l'employeur, comme Fabrice Godefroy, directeur général du groupe IDLP.
Il y a des périodes où, évidemment, il y a un peu plus de travail, donc ça nous permet d'avoir des salariés disponibles à ce moment-là.
Les journées seront payées avec une majoration de salaire d'environ 10%, bien en dessous de celle des heures supplémentaires, dénonce Michel Boga, secrétaire confédéral du syndicat Force Ouvrière.
Pour le salarié lambda, si j'ose dire, une heure supplémentaire est rémunérée 25% de plus. Voilà, et ça, c'est bien la différence, en fait, entre le rachat de RTT qui aurait dû, si vous aviez fait les heures, être payé à 25%, et là, un rachat juste avec 10% de complément.
Les syndicats déplorent également que cette aide ne concerne pas tous les secteurs.
Et vous, est-ce que vous êtes prêts à troquer vos jours de RTT contre du salaire ? Je vous pose la question ce matin, on en débat tous ensemble au 32-16.
11 départements du pays placés en vigilance orange, orage canicule ce matin, principalement dans la vallée du Rhône et dans les Alpes, le pays qui est frappé par un épisode de sécheresse. Elisabeth Borne active d'ailleurs ce matin la cellule interministérielle de crise face à une situation qu'elle qualifie d'historique. Et dans ce contexte, certains élus écologistes et insoumis pointent du doigt l'arrosage des terrains de golf. Réponse de Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. Il était l'invité de RMC ce matin.
La consommation globale d'un parcours de golf sur l'année, c'est environ 50 000 mètres cubes. Nous, ce qu'on demande en période de grande sécheresse, c'est juste de pouvoir utiliser 120 mètres cubes par jour. Ce sont des montants qui sont très raisonnables. Le citoyen a autant besoin du sport de loisirs que de l'agriculture. Et les efforts qui nous sont demandés sont bien supérieurs à ceux de l'agriculture. Quand je vous parlais d'une filière économique, le golf, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires et c'est 15 000 emplois. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire si on veut que le golf disparaisse.
7h33 sur RMC, on en vient à cette inquiétude des autorités et des associations de défense des animaux, inquiétude sur l'état de santé de ce béluga qui a été repéré dans la Seine, est à juger préoccupant.
Il semble présenter des altérations cutanées, il serait amaigri. Le cétacé qui continue de remonter vers Paris, sauf que les bélugas vivent habituellement dans des eaux glaciales, ce qui n'est pas vraiment le cas de la Seine. Il faut donc agir vite, Émeric Dantreuil.
Autour de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne, toute une équipe s'affaire.
Il y a les plongeurs, il y a une équipe de drones, il y a un poste de commandement.
Patrick Hérault est sapeur-pompier volontaire de l'Eure dans l'unité drone chargée de suivre les déplacements du béluga.
On l'a localisé, mais la difficulté, c'est d'arriver à le suivre. Il n'arrête pas de plonger, de remonter.
Pour les spécialistes des cétacés dépêchés sur place, l'enjeu est maintenant de déterminer le comportement de l'animal. Isabelle Doria-Pouzet, la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure.
Il y a deux bateaux avec des professionnels à bord qui sont en train de l'observer, son comportement.
prélèvements, sa physionomie, sa pigmentation, pour voir si c'est un animal en souffrance, compte tenu du fait qu'il n'a plus d'eau salée depuis un certain temps.
Selon le résultat des observations, une procédure d'évacuation adaptée de l'animal sera mise en place, explique Elodie Pouet. Elle fait partie de l'ONG Sea Shepherd France qui participe sur place aux opérations.
L'option la moins invasive, c'est un drive, le guider en fait vers la mer avec un bateau. L'autre option, c'est de le sortir et de le ramener par une voie terrestre, mais ça serait lui causer un énorme stress. C'est quelque chose qu'on veut absolument éviter.
En mai dernier, une orque repérée dans la Seine avait fini par mourir de fatigue et de maladie.
Aymeric Dantreuil avec les équipes de BFM TV.
7h35 sur RMC. On va terminer ce journal avec un débat qui peut diviser les Français.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Sébastien, puisqu'il y a des sempiternels désaccords sur les pains au chocolat ou la chocolatine, le sac en plastique ou la poche, ou encore le crayon à papier ou le crayon de bois. Eh bien, ce matin, RMC jette un pavé dans la mare, ou plutôt un pavé dans la mer, à la plage. Vous préférez sable ou galets? Jacques Terrance est allé vous poser la question sur la Côte d'Azur.
Antibes est divisée en deux. Au sud, près du centre, les plages de sable. Au nord, les fameux galets de la baie des Anges. Philippe qui barbote dans une eau transparente et clairement dans le camp des galets.
Bah, il y a moins entre les orteils, le sable au sommet, sur les serviettes, ça colle moins aux pieds.
Même si pour sortir de l'eau, ce n'est pas facile, ouais, de garder fière allure.
Une certaine expérience. Faut pas avoir peur du ridicule non plus quand on marche. Ça fait mal sur les sous les pieds, oui.
Quelques galets plus loin, Élise, une touriste normande, n'y voit aussi que des avantages.
Parce qu'ici, à Antibes, c'est quand même une plage où il y a moins de monde. Donc on est plus tranquille. Il y a plus d'espace entre les serviettes et l'eau est plus claire. Je trouve que la mer, elle est moins polluée, il y a moins de plastique.
De l'autre côté d'Antibes, c'est vrai qu'il y a plus de monde. Mais Maïlis, 8 ans, a des besoins de sable avec ses deux frères.
Parce que ça fait moins mal et on peut faire des châteaux de sable.
Et avec le soutien plein et entier de la maman, Sophie.
Avec les galets, c'est peut-être plus dangereux. Ils se jettent les galets dessus. Enfin, non, c'est moins drôle, ouais. Pour les parents, pas du tout.
Et pour ceux qui détestent les grains de sable entre les orteils, le conseil de Cyril est tout simple.
Bah, prenez une douche. C'est tout.
C'est simple.
Dans les deux cas, vous avez de la chance, hein. Profitez de la mer, profitez quoi qu'il arrive. Les courses, c'est à Cabourg ce soir, 20h15.
Et je vous donne le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 6, Ekeruelo. L'outsider, c'est le 9, Flèche du Cèdre, à suivre évidemment sur RMC Découverte.
C'est Stéphane Genest pour les infos. Il est 7h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Pouvoir d'achat, inflation, prix des matières premières. Le patron de Lidl France, Michel Biérot, sera en studio avec nous pour répondre à vos questions. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h39 sur RMC et RMC Story.
L'invité du jour.
Bonjour Michel Biérot.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin sur RMC. Vous êtes le directeur exécutif des achats du groupe Lidl France. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur le pouvoir d'achat des Français, sur les prix dans les rayons de nos supermarchés. Alors il y a les prix affichés et puis il y a en bout de chaîne le revenu des agriculteurs. On a vu des éleveurs de lait manifester ces derniers jours devant des laiteries et également devant des supermarchés. Alors pas forcément des supermarchés Lidl, mais d'autres enseignes. Les prix sont trop bas aujourd'hui. Dans la grande distribution, les éleveurs disent qu'on ne s'y retrouve pas avec les coûts qui augmentent, les coûts de l'énergie notamment.
Alors effectivement, bien évidemment, je les entends, ces éleveurs. Je suis à leur côté depuis de nombreuses années. On fait beaucoup de choses dans notre enseigne, et notamment sur le lait, où aujourd'hui nous sommes donc sur un prix de vente consommateur. Alors le prix de vente, il faut toujours prendre la brique de lait demi-écrémé, c'est la brique de base, c'est la référence, on va
d'accord.
dire. Et c'est de ça dont il parle. Aujourd'hui, on vend 80 centimes. Il faut savoir qu'on vient de 68 centimes, la brique. Donc, on a eu déjà 12 centimes d'augmentation. Et on va encore augmenter le prix de la brique. En fait, eux se réfèrent aujourd'hui sur le prix de l'Allemagne et de la Belgique.
Oui, l'Allemagne, parce qu'on a un prix en France qui est bien plus faible que chez nos voisins.
Depuis quelques semaines. Faut juste remettre dans le contexte. L'Allemagne vend 99 centimes la brique et la Belgique 1,05 €. Il y a quelques semaines, l'Allemagne vendait 20 centimes moins cher que la France. Donc, bien évidemment, faut regarder le tout. Et c'est un prix de vente. On peut vendre 99 et payer moins bien les éleveurs qu'en vendant 80.
C'est ce que j'allais vous demander. Il y a les marges aussi.
Exactement. Donc, à 80 centimes prix de vente consommateur d'une brique de lait chez Lidl, on a la marge légale, c'est-à-dire 10%. Et 430 du 1000, ou plutôt 43 centimes le litre pour l'éleveur. D'accord. Donc, ce n'est certainement pas assez.
On vous êtes prêt aujourd'hui à faire un effort supplémentaire pour les éleveurs?
Mais si je fais un effort supplémentaire sur les éleveurs, ils ont raison, il faut que j'augmente le prix de vente. Parce qu'ils ont compris qu'à 80, je n'ai que 10% de marge. Qui est la loi Egalim. Et donc, oui, on peut encore faire des efforts, mais on ne peut pas, en un claquement de doigts, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, passer de 80 à 99. Donc, je les invite, et d'ailleurs, je discute régulièrement avec eux, notamment d'un rémunérascore qu'on pourrait poser sur une brique de lait pour dire, cette brique de lait rémunère l'éleveur et cette autre brique de lait ne le rémunère pas.
Parce qu'on sait que les Français aussi sont attachés à ça quand ils font leur choix. Il faut accepter au supermarché de payer quelques centimes de plus.
Alors, l'alimentation a un coût. Et ce coût-là, faut l'accepter. Maintenant, encore une fois, nous, on vend 80 centimes la brique de lait la moins chère. Il y a des premiers prix chez tous mes concurrents qui sont vendus entre 70 et 71. Il faut que ces syndicalistes s'attaquent déjà à ces produits-là. À 71 centimes la brique, je vous garantis, on ne peut pas payer correctement un éleveur.
C'est-à-dire que vous, enseigne Abaco, vous n'êtes pas les moins chers sur le lait.
Ah non,
vous
sur le lait, nous sommes vraiment, et c'est difficile pour moi de le dire, hein, en tant qu'enseigne qui avons le meilleur rapport qualité-prix, sur le lait, nous ne sommes pas les moins chers. Et donc, c'est vrai qu'à 71, on ne peut pas rémunérer correctement un éleveur.
Il y a d'autres produits qui sont particulièrement chers cet été, et tout le monde l'a constaté, sont les fruits et légumes d'été qui ont énormément augmenté. Comment on fait pour proposer les meilleurs prix? C'est le même dilemme, les meilleurs prix aux consommateurs, mais tout en rémunérant les producteurs et les producteurs français.
Vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher. Donc tout est une question de marge. Chez nous, nous optimisons la logistique, nous optimisons énormément de choses pour proposer les meilleurs prix, tout en rémunérant correctement les agriculteurs. Mais dans le fruits et légumes, c'est très différent. On est en direct avec la production. Sur un litre de lait, il y a un industriel entre le distributeur et l'éleveur. Donc cet industriel peut aussi faire un effort dans cette période de crise. Dans le fruits et légumes, ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème. Je pense que personne vous a parlé de problème dans le fruits et légumes. Oui, les produits sont plus chers parce que différentes raisons, la sécheresse, enfin, il y a énormément de choses et les produits évoluent très vite, donc une raréfaction, etc. Mais encore une fois, on peut proposer des produits à des prix raisonnables tout en rémunérant correctement les agriculteurs.
Vous chiffrez à combien l'inflation plus générale dans vos magasins en ce moment?
Alors aujourd'hui, chez Lidl, dans nos rayons alimentaires, on est autour de 4,5% d'inflation. Quand l'inflation générale, on est plutôt à 6%, 4,5, elle va encore progresser, hein. Je pense qu'on va finir fin d'été, donc dans un mois à 5%, et certainement à 7% fin d'année.
Ouais, d'autres enseignes prédisent 10% d'inflation à la rentrée.
J'ose espérer, en tout cas, j'ai l'espoir que à partir de la rentrée, ça va redescendre un petit peu. Il y a déjà quelques signes, notamment sur le blé ou sur d'autres produits de matières premières, où on voit une inflexion, et donc j'espère que ça redescend un peu sur quelques produits. Mais effectivement, l'huile a triplé, les pâtes ont explosé, mais ça depuis un an. Donc oui, l'inflation, on l'a subi comme tout le monde, mais on essaye de la contenir en rognant sur nos marges et en baissant celle-ci.
Il y a un effet visible dans le comportement de vos clients, des consommateurs, les caddies ont changé?
Alors très nettement, oui, alors... Pour reparler du fruits et légumes, certains disent que les clients achètent moins de fruits et légumes. Chez Lidl, on n'a jamais vendu autant de fruits et légumes que ces derniers mois. Par contre, la fréquentation a quelque peu augmenté et le panier moyen a baissé. Ça veut dire que les gens viennent plus souvent, mais dépensent un petit peu moins. Et le deuxième, la deuxième chose qu'on remarque, c'est que les produits non alimentaires sont en baisse. Donc ça veut dire qu'ils vont se faire moins plaisir sur un ballon, sur une perceuse, enfin sur tous ces produits non alimentaires qui sont dans nos rayons, au profit de l'alimentaire.
Bien sûr. On vient acheter l'essentiel.
On vient surtout acheter l'essentiel. Ouais. Et le coup de pouce qu'on a mis en place de 5% une fois par mois, ça cartonne. Donc ça montre qu'il y a une vraie demande, qu'il y a un besoin du consommateur. Et les premières semaines du mois dans nos magasins, c'est impressionnant le nombre de porteurs de cartes de fidélité qui viennent utiliser ces 5% de remise sur le magasin.
Pour faire le plein pour le mois. Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels vous rognez un peu plus sur vos marges? Est-ce que vous avez des priorités dans le magasin?
On va rogner, là où on rogne le plus sur les marges, c'est là où les prix d'achat flambent le plus. Le papier, l'aluminium, tout ce qui est carton, tout ce qui est bien sûr à base de matières premières agricoles, le blé notamment, l'huile, etc. Donc tous ces produits qui ont flambé en termes de prix d'achat, c'est sur ces produits-là qu'on va rogner le plus sur nos marges.
Vous dites comme Michel-Édouard Leclerc qu'il y a eu des abus ces dernières semaines, ces derniers mois sur certains produits. Il y a eu des profiteurs de crise parmi les intermédiaires, parmi les industriels, parmi vos fournisseurs.
moi, je pense que et des industriels et des distributeurs profitent de cette situation, probablement. Maintenant, je ne suis pas là pour juger ce que font les autres.
On entend qu'il y a eu des pénuries auto-alimentées volontairement pour faire monter les prix.
Bah écoutez, l'huile de tournesol est un bon exemple. Il y avait plus d'huile il y a quelques semaines. Aujourd'hui, tous les magasins sont pleins d'huile, certes avec un prix trois fois plus cher. Pourtant, il n'y a pas eu de récolte de tournesol ces derniers mois. La récolte de tournesol va se faire d'ici un mois ou un mois et demi.
Donc cette huile existait quelque part.
Donc oui, il y a eu de la spéculation sur certains produits, très clairement, et ça peut être prouvé très facilement. Mais par contre, la pénurie de l'huile de tournesol, on peut probablement en avoir l'année prochaine, parce que il y a eu très peu de semences cette année, et donc les récoltes vont être moindres.
Le pouvoir d'achat, c'est aussi celui de vos salariés chez Lidl. Vous augmentez les salaires.
Écoutez, alors ça c'est pas mon rayon si je puis dire, mais bien évidemment qu'on est à l'écoute des partenaires sociaux. Ma collègue qui s'en occupe fait des réunions régulières et discute du sujet. Donc il y a encore des réunions qui sont prévues à la rentrée et bien évidemment qu'on est à l'écoute mais voilà. C'est pas mon rayon et je préfère ne pas m'étendre sur le sujet.
Vous avez pris, votre enseigne Lidl a pris des engagements avec les autres géants de la grande distribution sur la sobriété énergétique, l'appel à la sobriété du gouvernement pour répondre à ce risque de tension sur le marché énergétique, notamment à l'automne et l'hiver prochain. Vous vous engagez notamment à éteindre vos enseignes lumineuses la nuit lorsque les magasins ferment. Moi, ce qui me paraît fou, c'est qu'on ait besoin d'une crise finalement pour se rendre compte de l'absurdité de laisser les lumières allumées toute la nuit, non ?
On est parfaitement. Alors, on parle de l'enseigne, hein, juste l'enseigne oui. Avec le logo. Alors, nous, on a signé avec Perifem, bien évidemment, cette charte, puisque c'était pour nous une évidence. D'autant plus qu'on était la première enseigne à avoir mis en place des portes vitrées sur tous les meubles frais. Ça, c'est une économie colossale. On a aujourd'hui 275 000 mètres carrés de photovoltaïque sur les toits de nos magasins. On en aura 500 000 dans un an. Aujourd'hui, une facture d'électricité dans un magasin, pour que l'auditeur comprenne bien, c'est à peu près 5 000 euros par mois. Si on n'avait pas les photovoltaïques, si on n'avait pas mis les portes sur les vitrines, on serait à 8 000, 9 000, 10 000. Donc, bien évidemment, c'est notre ADN de faire des économies et de faire attention à chaque euro qui est dépensé. Et l'énergie, 5 000 euros par mois, c'est un poste qui est juste énorme. Donc, l'enseigne, c'est logique. Il y a déjà énormément de nos magasins sur les 1 600 points de vente en France qui éteignent les enseignes le soir. Début septembre, on s'est engagé en signant cette charte que, bien évidemment, on éteint les enseignes. Mais, depuis des années, avant l'ouverture du magasin, il y a 2/3 des lampes dans les magasins qui sont éteintes. Après la fermeture, donc ça veut dire que les salariés, pour mettre les produits en rayon avant l'arrivée des clients,
il y a moins de lumière.
Il y a beaucoup moins de lumière. L'intégralité de nos magasins aujourd'hui est équipée de LED. Donc ça aussi, c'est une économie colossale. Mais encore une fois, c'est notre ADN de distributeur. Il faut qu'on fasse très attention sur chaque poste. L'énergie était un poste important. Oui. Ça fait des années qu'on y travaille. Donc, signer cette charte, c'était une évidence pour nous, quoi.
Est-ce que vous vous préparez au scénario d'une pénurie d'énergie avec un impact sur l'activité de vos magasins? Est-ce qu'on peut en arriver à vous demander de fermer les magasins s'il le fallait?
Probablement, oui. Si on doit arriver à cela, on suivra le mouvement, bien évidemment. On l'a fait pour le Covid. Hein. On a ouvert moins longtemps, justement, pour avoir un flux, ou plus longtemps,
pour avoir un flux,
pour étaler le flux, passages. Pardon. Si demain, il faut, sur les périodes d'hiver, où le jour se lève plus tard et se couche plus tôt, il faut ouvrir un peu plus tard les magasins et les fermer plus tôt, bien évidemment qu'on suivra le mouvement.
Et ce sera peut-être un appel du gouvernement, ça peut arriver, ils vous ont préparé à ce scénario?
Il commence à en parler, oui.
Il commence à en parler. Michel Biro, merci d'être venu ce matin sur le plateau d'RMC, directeur exécutif des achats du groupe Lidl France. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci.
7h50.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Et à suivre sur RMC, place à la culture. C'est votre rendez-vous dans la matinale d'RMC. L'été d'Angèle Châtelier, ses coups de cœur, ses conseils. Vous avez hiberné ces 6 derniers mois avec Angèle. On va tout rattraper. Elle va nous parler des sorties d'albums qu'il ne fallait absolument pas rater. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h53 sur RMC. Très bon réveil.
L'été d'Angèle.
Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
L'été d'Angèle, les coups de cœur d'Angèle tout l'été, juste avant 8h. Ce matin, on va alimenter un peu la playlist des vacances. Si vous prenez la route ce week-end, la route dans le sens aller ou dans le sens retour, on va prendre le temps d'écouter un peu les disques qu'on avait mis de côté pendant l'année. Petite piqûre de rappel de ce qu'il faut rattraper cet été.
Oui, alors c'est évidemment une liste non exhaustive, mais j'ai décidé de compartimenter ça par ambiance. Vous le disiez, c'est l'été, donc c'est le soleil, les vacances, on a envie de danser. Et pour vous y aider, bien j'ai la solution, vous pouvez mettre dans vos enceintes le dernier album de The Weeknd.
Ce week-end, on l'entend partout.
On l'entend partout. Le Canadien est le roi des records, notamment avec son tube Blinding Lights, devenu la première chanson à rester pendant une année entière dans le top 10 des charts américains. Vous avez forcément entendu cette chanson.
Ah,
The Weeknd sortait donc en janvier dernier Down FM, son cinquième album numéro 1 des ventes dans plus de 10 pays à sa sortie. Et on peut le dire, c'est idéal pour danser cet été.
Allez, on change d'ambiance, ambiance rock, ça ouais. Vous va bien Angèle? Oh. Il y a quoi comme album à rattraper?
Eh bien j'aimerais vous présenter le duo britannique Wet Leg, un mélange entre les Rolling Stones et Françoise Hardy. Leur tube Chaise Longue cumule déjà des millions de vues sur YouTube.
On a chaise longue.
On a chaise longue.
Elles
viennent de l'île de Wight en Angleterre. C'est la nouvelle sensation rock de cette année. Mais alors, si vous êtes plutôt dans une ambiance chanson française, je comprends. Eh bien, prenez le temps d'écouter ou de réécouter avec Anaïs, je le sais, le dernier album de Juliette Armanet, reine des festivals de l'été.
Tous les festivals cet
Exactement,
été avec sa tenue à paillettes.
Sa tenue pailletée, c'est boule à facettes. Alors c'est selon moi l'un des plus beaux albums de chansons françaises de ces derniers mois. Beau parce que dansant, entraînant, terriblement grisant en concert. Mais si vous, votre truc, c'est plutôt le rap, alors il y a toujours l'album de l'américain Kendrick Lamar, le dernier, qui s'est vendu à presque 300 000 exemplaires rien qu'en une semaine. Pas mal aussi, on aime aussi. Hein. Autre ambiance. Alors pourquoi cet album de Kendrick Lamar s'est-il autant vendu? Que donne-t-il? Réponse avec le journaliste Nicolas Rogès, auteur du livre Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche.
C'est un album qui est complètement différent de ce qu'il a fait auparavant. Kendrick Lamar a toujours fait ça, en fait. Hein. Chaque album est différent du précédent. Quelqu'un qui n'a pas apprécié cet album d'avant ou qui ne connaît pas Kendrick va pouvoir apprécier cet album-là parce qu'il y a quand même des choses qui sont très accessibles, beaucoup des refrains chantés, des mélodies assez accrocheuses, etc. Donc il a réussi, encore une fois, tout en faisant quelque chose de très différent et de très profond, personnellement et aussi spirituellement, il a réussi quand même à allier cette dimension commerciale qui lui permet d'avoir un succès grand public également.
Bah, on adore
Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar. Ok, qu'est-ce que vous mettez dans la playlist entre tout ça? Votre préféré, Angèle, Anaïs?
Moi, je choisis Wet Leg, je pense. Pour le côté un peu rock, mais ensoleillé.
Un peu rock, je vais découvrir parce que voilà, c'est le seul que je connaissais pas ce matin. Anaïs?
Moi, j'adore Juliette, mais je mets aussi The Weeknd. Très bon.
Juliette en boucle, ça marche très bien aussi. Merci, Angèle Châtelier. À lundi sur RMC, juste avant 8h, l'été d'Angèle. Dans un instant, la météo et votre journal de 8h. Très bon réveil avec RMC, 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.